découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
La sphère neuro, Célia Maurès, sur Nutri Radio.
Bonjour Célia.
Bonjour Fabrice.
Célia Maurès sur Nutri Radio, comme chaque vendredi, la sphère neuro. Comment allez-vous?
Ça va très bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien.
Bon, Célia, on est ravis de vous accueillir chaque semaine pour explorer un petit peu tout ce qui se passe dans notre cerveau et puis tout ce qu'on peut mettre en place pour que ça aille mieux. On bouge, on joue d'ailleurs aussi grâce à vous. On a découvert les Exergames la semaine dernière et on va développer un peu plus sur notamment les applications qui existent, parce que c'est vrai que ça nous permet aussi de lutter contre la sédentarité. Un des problèmes du moment, hein, la sédentarité. Et ne pas confondre d'ailleurs activité physique et sédentarité. On m'a expliqué le détail, c'est assez bluffant. Je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui, chers auditeurs. On n'a pas le temps, mais en gros, si vous faites du sport le soir quand vous rentrez à la maison et que toute la journée vous avez été assis sur la chaise, vous êtes sédentaire, considéré comme sédentaire. C'est ça. Vous savez, Célia, vous n'êtes pas trop sédentaire, vous ?
Un petit peu, justement, mais je marche beaucoup, mais c'est vrai, je pense que je fais partie des sédentaires et je pense que les gens, ce que vous dites est très intéressant et très vrai, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on dit, ah ben moi, je fais beaucoup de sport, je vais à la salle le week-end, je vais courir le week-end, mais toute la journée, en semaine, je suis devant mon ordinateur et je ne bouge pas. C'est encore plus mauvais que les personnes qui ne bougent qu'une demi-heure par jour, qui font pas de sport, finalement. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est pas le temps que l'on passe à faire du sport, mais c'est le temps qu'on reste assis sans bouger devant notamment, même malheureusement, son ordinateur. Et on a pas mal de personnes qui travaillent devant l'ordinateur. La plupart des activités intellectuelles se font devant l'ordinateur, malheureusement, toute la journée.
Alors, aujourd'hui, on va parler des différentes applications et vous allez aussi nous partager des résultats d'études très intéressants au sujet de la pratique de ces Exergames. Alors rappelez-nous déjà, rapidement, hein, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière et qui n'ont pas encore écouté le podcast qui est déjà disponible, ce qu'est un Exergame en quelques mots.
Alors un Exergame, c'est quoi ? C'est un jeu vidéo qui va combiner l'exercice physique avec une activité cognitive, donc une activité mental. Ça va permettre deux choses, de faire bouger le corps, ce qui est intéressant puisqu'on sait que l'activité physique permet d'augmenter les capacités intellectuelles, ça va avoir un effet sur les facteurs de croissance au niveau neuronal et permettre la naissance de nouveaux neurones, mais le fait de combiner ceci avec un exercice mental et cognitif en même temps va permettre encore plus de consolider la naissance de ces nouveaux neurones et ces nouvelles connexions synaptiques. Ce qui signifie une meilleure attention, meilleure vigilance, une meilleure attention soutenue, c'est-à-dire la capacité de traiter plusieurs informations en même temps. Ça va être d'augmenter sa mémoire, ses capacités de mémorisation, ses fonctions exécutives, planification, flexibilité mentale, ce qui est très utile pour changer de stratégie quand on est en train de s'enfoncer dans une stratégie qui ne fonctionne pas. Prise de décision rapide, ce qui peut être très important dans certaines situations, et augmentation du vitesse de traitement de l'information, notamment tout ce qui va permettre de traiter, avoir ce qu'on appelle une vivacité d'esprit. C'est ça les Exergames, ça va servir à ça. Et c'est ça les applications lesquelles on va s'en servir.
Alors justement, quelles sont aujourd'hui les applications possibles ?
Alors, déjà, vous l'avez dit, on lutte contre la sédentarité. Trop de personnes sont sédentaires. Là, ça permet d'apporter quelque chose de ludique pour les personnes notamment qui sont réfractaires au sport et même les personnes âgées, puisqu'il y a des Exergames dédiés à l'activité physique adaptée, donc activité physique adaptée, ce qu'on appelle l'APA, pour permettre à ces personnes âgées qui sont totalement réfractaires pour faire du sport ou qui sont en EHPAD et qui ne peuvent peut-être pas aller faire du sport réellement, ça permet de lutter contre cette sédentarité de manière ludique et ça leur plaît, ça augmente la motivation et le plaisir qu'elles prennent à faire du sport. Donc, les gens ont envie de faire du sport. Ensuite, ça va permettre de lutter contre l'isolement, puisqu'on joue à plusieurs. Donc, il va y avoir un lien social qui est très important pour le cerveau. Ça va permettre de lutter contre le déclin cognitif, puisque ça va allier sport et activité cognitive. Et ça va aussi permettre, même dans certaines situations, de détecter les troubles cognitifs, notamment lorsqu'ils sont, on va dire, récents, en tous les cas, tout petits, c'est-à-dire pas les gros troubles cognitifs qu'on verrait, j'allais dire, à l'œil nu, mais les petits troubles cognitifs, au lieu d'utiliser des tests de neurocognition standardisés. C'est-à-dire que si la personne va avoir du mal à changer de stratégie, à réaliser deux tâches en même temps, à pouvoir traiter deux types d'informations en même temps, à mémoriser les informations quand elles lui arrivent, à maintenir son attention au cours du jeu, probablement c'est qu'il peut y avoir un petit trouble cognitif, ce qui permettrait d'avoir un autre moyen éventuel de diagnostiquer ces troubles, et ça aurait des effets bénéfiques, notamment sur les pathologies qui malheureusement, donc ce sont aussi des applications sur, avec lesquelles on pourrait utiliser les exergames, c'est la maladie d'Alzheimer. Et parce qu'elles ont un déclin cognitif, un problème de mémorisation, donc ça pourrait aider. Et aussi pour la maladie de Parkinson, qui permettrait d'augmenter la mobilité, l'autonomie de ces personnes-là qui ont des difficultés, on le sait, dans l'initiation, notamment des mouvements.
Ça, c'est génial. Est-ce que vous avez du coup des résultats d'études, justement, concernant la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer ?
Alors, j'ai il n'y a pas forcément de résultats d'études que j'ai pu exactement trouver. En disant, j'ai lu pas mal de méta-analyses. Alors, une méta-analyse, c'est quoi ? C'est un chercheur qui va lire beaucoup d'articles sur le sujet et qui va compiler les résultats pour montrer, en fait, les bienfaits de l'utilisation de ces exergames. Alors, il y a un modèle qui existe, c'est le modèle d'Herold 2018, donc il date de 2018, parce que lui, il s'est posé quoi comme question ? Certes, de combiner les deux activités, ça va permettre d'augmenter les performances à la fois motrices, certainement, mais aussi cognitives et lutter contre le déclin cognitif. Mais qu'est-ce qu'il faudrait comme tâche ? Est-ce qu'il faut que les deux tâches physiques, voyez, et cognitives soient indépendantes l'une de l'autre ? Alors, qu'est-ce qu'il appelle indépendant ? C'est typiquement pédaler et en même temps faire du calcul mental. Ou est-ce qu'il faut que la tâche cognitive soit totalement dépendante de l'activité motrice, physique ? Et là, ça va être, bah, par exemple, de dribbler avec un ballon, de devoir le passer à son adversaire, de pouvoir vérifier la position des joueurs adverses, etc., pour marquer le panier. Et on se rend compte de quoi ? Que lorsque c'est combiné, c'est-à-dire que lorsque c'est que la tâche cognitive est en lien avec la tâche motrice, c'est là où on a les meilleurs résultats. On augmente ce qu'il a appelé la réserve cognitive, et ça c'est important pour les malades d'Alzheimer, à savoir qu'Herold travaille dans un centre des maladies neurodégénératives. Je crois qu'il est aux États-Unis, de mémoire, il est aux États-Unis, donc il est spécialiste de ce type de maladie, donc il a surtout compilé des études portant sur ce type de maladie, mais pas seulement. Et ce qu'il a trouvé, c'est que le fait de combiner les deux tâches, c'est-à-dire que la tâche cognitive soit intégrée à la tâche motrice, on ait besoin de la cognition pour réaliser la tâche motrice, ça a permis d'augmenter ce qu'il a appelé la réserve cognitive. Et la réserve cognitive, c'est quoi ? C'est à la fois la capacité du cerveau à lutter contre les lésions neuronales cérébrales. Donc, c'est bien, ça permet d'éviter de perdre des neurones, qu'il y ait des lésions, puisque ça va empêcher, on va résumer l'apparition de ces lésions, mais aussi ça va permettre de lutter contre le déclin cognitif.
Célia, on va faire une petite pause. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bien sûr.
Et après ?
Très bonne idée.
On se retrouve juste après ceci.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
On parle des exergames avec Célia Morès cette semaine sur les applications, les dernières études cliniques, les concernent pour lutter contre la sédentarité. Vous avez dit quelque chose juste avant la pause. Je me suis arrêté un peu dessus. C'est-à-dire, on dit souvent qu'il ne faut pas faire deux choses à la fois et que quand on fait plusieurs tâches à la fois, finalement, le cerveau, il a un peu perdu. Et j'en veux pour preuve aujourd'hui les gens qui regardent par exemple la télé en ayant le téléphone, on scrolle. Enfin, est-ce que ça ne diminue pas l'attention finalement ?
Alors, faire deux choses à la fois, ça dépend du type de tâche. Si les deux tâches demandent une certaine quantité de ressources attentionnelles, oui, ce qui va se passer, c'est que ça va diminuer la tension. On ne peut pas regarder la télé, suivre la série qu'on veut suivre ou le film qu'on veut suivre tout en scrollant son téléphone parce qu'à un moment donné, on va louper un message au niveau de la télévision. Et je le sais puisque ça m'arrive de le faire et je vois bien qu'à un moment donné, j'ai loupé le message du film ou j'ai loupé une information. Bon, parfois, ce n'est pas important. En revanche, au niveau du sport, là, c'est différent parce que l'activité cognitive est insérée dans l'activité sportive. Donc, c'est typiquement quelqu'un, c'est comme si on se retrouvait en sport collectif. Un basketteur doit à la fois faire travailler ses muscles, courir, dribbler, etc. et regarder les positions des autres joueurs pour pouvoir marquer le panier. Et quand on fait deux tâches séparées, qu'elles soient indépendantes, hein, comme l'a décrit Hérold avec le fait de pédaler et de faire du calcul mental, comme on est sur deux ressources différentes, un pédaler, c'est presque automatique. Ça nous demande normalement pas de évidemment un vélo d'appartement, hein. Ça nous demande pas de ressources attentionnelles particulières. Donc, on peut très bien résoudre ce calcul mental sans avoir de réelles difficultés. C'est un petit peu comme lorsqu'on conduit. Vous voyez, quand on conduit, on arrive à parler avec son passager ou à écouter la radio. Bah, dans ces cas-là, on fait deux choses en même temps. Pourquoi ? Parce qu'il y en a une qui est automatisée, donc elle nous demande peu de ressources attentionnelles. Le problème vient quand les deux tâches nous demandent beaucoup de ressources attentionnelles. Et là, évidemment, il va y avoir un petit conflit au niveau des performances.
Bien, par exemple, conduire et regarder la télé, bon, ça, c'est déconseillé, évidemment. Mais il y a de plus en plus, vous savez, c'est quand même dangereux aujourd'hui. Je ne sais pas si vous prenez la voiture, ça y est, de temps en temps. Mais il y a de plus en plus de personnes qui, au moindre temps mort, c'est-à-dire un feu rouge, un stop, n'importe quoi, un petit embouteillage, boum, le téléphone portable.
Alors ça, c'est très mauvais. Alors moi, personnellement, je ne conduis pas, je n'ai pas le permis, donc je n'ai même pas le problème. Bon. Mais c'est vrai que c'est très, très mauvais parce qu'il y a des études qui ont montré que même lorsqu'on avait le kit main libre, de répondre au téléphone pouvait avoir une incidence sur l'attention et notamment augmenter les temps de réaction. Alors quand on est sur certaines routes où il ne devrait pas y avoir de problème, ça peut ne pas poser, mais si à un moment donné il y a un accident ou qu'il faut freiner un petit peu rapidement, ça va augmenter le temps de réaction, donc on va mettre plus de temps pour freiner et ça peut causer des accidents. Donc les kits main libre perturbent l'attention si on téléphone au volant, donc il vaut mieux éviter tout court de téléphoner.
Bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les nouvelles voitures proposent des dispositifs Bluetooth pour bien nous permettre de parler en même temps qu'on conduit. Et en même temps, ça évite aussi parfois de s'endormir. Vous savez, quand on est au téléphone. Alors, revenons sur les études, justement, de ces exergames. Qui concernent ces exergames, Célia ?
Alors, il y en a trois que j'ai sélectionnés, enfin deux que j'ai sélectionnés et une troisième pour montrer l'avenir des exergames, et j'ai trouvé ce projet intéressant. Alors, une étude qui vient d'être réalisée, qui date de 2023. C'est notamment Pauline Maillot, qui est à l'Institut des sciences du sport Santé Paris, l'I3SP, que d'ailleurs j'ai essayé de contacter sur LinkedIn pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait aller voir pour NutriTV comment ça se passe en réalité l'utilisation de cet exergame. Et la future docteure, Madame Béraud-Peignet, elles ont travaillé sur quoi ? Elles ont pris 34 personnes âgées de 70 ans. Et elles les ont divisées en deux, 19 personnes et 15 personnes. Les premières 19 personnes elles ont été sélectionnées pour réaliser un exergame en utilisant le fameux mur immersif interactif. Donc là, il fallait mettre des ingrédients de glace le plus vite possible et lancer un ballon sur une cible. C'était les tâches qui leur étaient demandées. Et les 15 autres personnes, elles n'ont eu que le renforcement musculaire à faire. Ça a duré 3 mois avec 2 séances par semaine et elles ont regardé les capacités avant le protocole et après le protocole. Avant et après, on a fait les tests cognitifs standardisés, mesurer la force physique, mesurer le plaisir ressenti et divers questionnaires. Et leur résultat a montré bien évidemment des bienfaits dans les deux types de pratiques, puisqu'on sait que le renforcement musculaire a des bienfaits, notamment sur la naissance de nouveaux neurones au niveau cérébral. Donc là, aucun problème. Mais les personnes qui avaient bénéficié de l'entraînement en mur immersif, donc qui avaient utilisé l'exergame, avaient de meilleures performances performances que les autres, donc les autres avaient augmenté, c'est pas ça qu'elles veulent dire, hein, mais avaient de meilleures performances que les autres en mémoire de travail, donc la mémoire qui nous permet de garder justement une information dans un laps de temps en mémoire assez long pour pouvoir traiter l'information, mais aussi une augmentation des capacités d'inhibition, donc d'inhiber une action qu'il ne devrait pas réaliser. Augmenter les facultés à réaliser justement deux tâches en même temps, c'est ça qui est intéressant, ils arrivaient à augmenter ces facultés, à passer d'une tâche à l'autre, voire à les réaliser en même temps. Bon, c'était des tâches relativement simples, mais quand même, et surtout à augmenter le plaisir ressenti. Ça, c'est une première étude de 2023, une étude qui a été réalisée en ce qu'on appelle une étude expérimentale. Les autres études que j'ai trouvées, il y a Marques qui est au Brésil en 2023. Lui aussi, il a fait une méta-analyse. Donc, il a lu beaucoup d'articles sur les bienfaits des exergames. Il a regardé qu'est-ce qu'il en ressortait et quels étaient les bienfaits. Le protocole global, ça serait de jouer 45 minutes, 2 à 3 fois par semaine pendant un mois. Voilà ce qu'il a choisi comme protocole. Et là, il a vu quoi ? Diminution de l'anxiété, diminution de la dépression, augmentation de l'humeur, meilleure estime de soi, meilleur sentiment d'auto-efficacité, augmentation de la vitalité, augmentation de l'énergie perçue. Donc, les gens se sentaient beaucoup plus énergiques et être beaucoup moins fatigués. Et augmentation de la relaxation. Évidemment, tout ce qui était cognitif. Donc, on voit bien les bienfaits que ça pourrait avoir de pratiquer ce type d'exercice pour tout un chacun. Et c'est pour ça que je finirai par sa dernière étude, qui n'en est pas réellement une, mais c'est une étude en fait du. Alors, j'ai trouvé ça sur un document de Santé en Mouvement. Et c'est une étude en fait de l'Institut du Mouvement d'Aix-Marseille. Ils ont travaillé, ils ont collaboré notamment avec AG2R, hein, donc qui est une mutuelle en fait qui s'occupe de la santé et tout ce qui est un petit peu assurance. Et en fait, leur questionnement, eux, c'était ben oui, mais la Wii, c'est bien beau, hein, la Wii ou les Nintendo, les PlayStation, etc. Mais pour les personnes âgées, ce n'est pas toujours adapté. Donc, comment utiliser un exergame en activité physique adaptée? Pour que ce soit adapté à ces personnes âgées. Donc, ils ont fait quoi ? Ils sont en train de développer un jeu, qu'ils ont appelé le projet Silver Explorer. Donc, malheureusement, comme ça date de 2023, je n'ai pas trouvé la description du jeu, pas plus que les informations que dans ce document. Hein, j'ai essayé de rechercher, donc je vais essayer de voir si on peut pas aussi, toujours pour NutriTV, contacter les personnes pour voir ce qui se passe. Mais en fait, ce jeu, ils l'ont conçu pour et par les seniors. C'est-à-dire qu'ils ont demandé l'avis des seniors, ils ont fait un brainstorming, une recherche contextuelle, avec des entretiens pour identifier les besoins, les capacités, les préférences des seniors, quel type d'environnement, quel type d'histoire, quel type de couleur, quel type de son, pour pouvoir ensuite créer ce jeu-là. Les chercheurs, eux, se sont occupés de l'activité cognitive, des tests cognitifs, de ce qu'on a allé leur demander au niveau intellectuel. Et ensuite, ils ont fait tester ces activités cognitives justement aussi à un panel de personnes pour vérifier qu'elles n'étaient ni trop faciles ni trop difficiles. Et ça leur a permis de passer à une troisième phase, la gameplay, et de pouvoir intégrer ces tâches cognitives dans l'environnement qui a été conçu et créé quelque part par les seniors eux-mêmes, en faisant, bien sûr, en jouant sur la progressivité des tâches, donc en les rendant, par exemple, de plus en plus difficiles. Et après, évidemment, il y a la phase de développement, la phase de validation du jeu pour que ce soit mis en place. Donc, on s'y intéresse vraiment, justement, pour trouver des solutions d'utiliser au mieux ces exergames pour l'activité physique adaptée pour nos seniors qui malheureusement sont de plus en plus sédentaires parce que ben, soit ils peuvent pas bouger, soit ils ont y a des difficultés, soit ils sont en EHPAD ou alors tout simplement parce que ben ils n'ont pas forcément envie d'aller faire du sport et là ça pourrait ramener du ludique dans leur activité quotidienne.
C'est très important et on suit évidemment toutes ces évolutions parce que ça peut changer le quotidien de milliers, de millions de personnes. Et comme on est dans une d'ailleurs société de seniors, ça nous concerne tous autant qu'on est, n'est-ce pas Célia ?
Totalement, totalement, parce qu'on va vieillir de plus en plus tard. Donc je pense que ça va nous concerner et puis si on peut vieillir en meilleure santé grâce à cela, c'est tout bénéfique.
De mieux en mieux, voilà, il faut vieillir de mieux en mieux. Merci beaucoup, émission à retrouver en podcast tout de suite si vous allez sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcast et sur toutes les plateformes plateformes de streaming audio. On va se retrouver la semaine prochaine et vous allez nous parler d'un petit robot. C'est pas Nono le petit robot pour ceux qui ont la ref, mais c'est encore autre chose aujourd'hui. La robotique combinée à l'IA, ça fait des merveilles. Ça fait aussi un petit peu peur quand même, je vous le cacherai pas. On en parle la semaine prochaine avec vous, Célia.
Très volontiers, Fabrice, avec grand plaisir.
Allez, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Reste avec nous.
La sphère neuro, Célia Mores sur Nutri Radio.